Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Évasion. Aujourd'hui, une émission sur l'actualité sportive finistérienne. Cette émission est réalisée par les jeunes du foyer de Pont-de-Buis-les-Quimères, Ilona, Raphaël, Gurvan, Anaï, Brenda, Laurine et Kemo qui sont à mes côtés. Vous allez bien ?
Oui, très bien.
En route pour Dirinon, c'est le nom qu'on a choisi pour cette émission. On prépare ensemble les jeunes à la couverture du tournoi international de Dirinon les 30 et 31 mai prochains. Et pour débuter et s'entraîner, nous aborderons dans cette émission différents sujets sur l'actualité sportive du Finistère. Nous commencerons cette émission sur la polémique de l'arbitrage du Stade Brestois durant les derniers matchs. Nous partirons à la découverte d'une cycliste bretonne, Katel Alençon, qui participera aux Jeux paralympiques de Tokyo cet été. Nous parlerons ensuite du handball avec la découverte du club local de Pont-de-Buis, puis nous ferons un point sur la saison de Landerneau Bretagne Basket. On commence cette actualité sportive avec le Stade Brestois. De retour en Ligue 1 depuis le début de la saison, le club fait un parcours plus qu'honorable et l'objectif maintien est presque à portée du club finistérien. Mais en coulisses, il y a quelque chose qui agite l'actualité du club. Malgré l'instauration de l'assistance vidéo par l'arbitrage, les matchs se suivent et se ressemblent. Contre Rennes, puis contre Saint-Étienne, le club subit parfois des décisions arbitrales incompréhensibles. Selon Grégory Lorenzi, le directeur sportif, le club est pénalisé à chaque fois. N'est-ce pas un peu trop exagéré ou est-ce vraiment le cas ? À l'issue du match Brest-Amiens, le 25 janvier dernier, les jeunes de Pont-de-Buis ont recueilli des interviews d'après-match pour répondre à la question. On écoute Yann Cour, le milieu de terrain du Stade Brestois après son match contre Amiens.
Après, ouais, des fois, il sifflait pas trop, mais après, c'est l'arbitre, il a toujours raison. Donc, même si des fois, c'est frustrant, mais on essaye de toujours d'oublier un peu les fautes qui sifflent pas ou qui sifflent. Donc, pour moi, c'était équilibré.
Ilona, est-ce que le Stade Brestois est défavorisé par l'arbitrage ?
Oui, un arbitrage assez étrange sur le match de Brest-Rennes. À la 10e minute, un coup franc contre Brest, tiré par le joueur de Rennes, Bourigeaud, qui est contré dans le mur, mais un peu après, un pénalty non sifflé sur une main de Niang. Donc, deux actions identiques et pourtant deux choix d'arbitrage différentes. Et même sur le match de Brest-Saint-Étienne, encore une fois, un pénalty sifflé contre Brest et rien pour Saint-Étienne. On peut donc dire qu'il y a eu un désavantage d'arbitrage pour Brest, et Lorenzi le dit, il cherche des explications sur ça, mais n'en trouve aucune. Pour moi, ils ont clairement eu un désavantage par rapport à l'arbitrage. On le voit clairement sur les images du match que le joueur Grégory Lorenzi n'a rien pu faire pour que cette main soit évitée. Puis, la décision de l'arbitre sur ce pénalty était peut-être un peu injuste. Et pourtant, quand l'équipe adverse Saint-Étienne fait une main, l'arbitre a choisi une toute autre décision. Donc, comme l'a dit Lorenzi, deux situations identiques, deux décisions d'arbitrage différentes.
L'autre actualité du Stade Brestois, c'est son gardien. Plus de 100 matchs à son compteur professionnel. Il ne marque pas de but, mais ses arrêts remportent des points. Gauthier Larsonneur, le gardien du Stade Brestois depuis 2017, est-il meilleur gardien de la Ligue 1 ? La réponse avec Raphaël.
Gauthier Larsonneur est connu pour être le gardien du SB 29. Il est âgé de 23 ans. Pour un gardien, ça pourrait être jeune, mais il a réussi à s'imposer dans les rangs du SB 29 en réalisant de magnifiques parades. Le SB 29, qui pour cette saison trône à la 13e place du classement, à 2 points des Girondins de Bordeaux. Mais Gauthier Larsonneur est aussi le second gardien de l'équipe de France Espoir, derrière Paul Bernardoni, âgé de 22 ans. Malgré sa petite taille, 1m81, il a su s'imposer au sein de l'équipe de Brest. Pour un gardien, il réalise un bon pourcentage d'arrêts de pénalty, 2 sur 5. 80% de ses sorties sont réussies et il arrive à arrêter 75% de ses tirs. Ses points forts sont ses arrêts de pénalty, ses réflexes, mais aussi son toucher de balle. Il n'a pas de gros points faibles, apparents. Il a une moyenne de 7 sur 10 par match, qui pour un gardien est une très bonne note. Pour ma part, Gauthier Larsonneur est le meilleur gardien de Ligue 1. Il démontre qu'il veut sa place en équipe de France, espoir pour les JO à Tokyo.
Et le principal intéressé, que pense Gauthier Larsonneur de ses performances ?
Si je peux faire certains arrêts, c'est en partie grâce à mes défenseurs parce qu'eux bouchent un angle ou me permettent d'intervenir sur un autre endroit qu'eux n'ont pas bouché et qui ont senti que j'allais pouvoir intervenir. Donc voilà, oui, après il y a un peu de fierté pour moi aussi parce que c'est toujours bien et intéressant de faire des arrêts parce que voilà, ça me donne confiance et ça me permet d'être bon dans la suite du match.
Merci Ilona et Raphaël. Une dernière question pour vous. Que pensez-vous de l'avenir du Stade Brestois pour cette saison ?
Pour ma part, ils peuvent viser le maintien et même viser le top 10.
Je suis totalement d'accord avec Raphaël.
Réponse au prochain match ce samedi, Brest affrontera Angers. Toujours dans l'actualité sportive, connaissez-vous Katel Alençon ? Les jeunes de Pont-de-Buis partent à la découverte de cette jeune cycliste bretonne, très courageuse. On écoute Gurvan et tout de suite après l'interview de Katel Alençon.
Nous découvrons Katel Alençon, une championne de France. Mais qui est Katel Alençon ? Katel est une athlète française, bretonne et finistérienne. Elle est actuellement en préparation pour ses deuxièmes Jeux paralympiques à Tokyo durant l'été 2020. Après une première expérience sur les Jeux de Rio en 2016, elle souhaite obtenir des résultats. En pleine préparation, elle participe à de nombreuses compétitions et à de nombreux objectifs. Championnat de France, championnat du monde de cyclisme sur route, elle fait également partie de l'équipe professionnelle Cofidis. Elle a commencé le vélo sur route très jeune. À l'âge de 25 ans, suite à des complications après une entorse, elle doit être amputée d'une partie de sa jambe gauche et se remettra à la compétition quelques années après cette opération en 2013. Découvrons tout de suite Catel Alençon.
Bonjour, je m'appelle Raphaël et j'avais une question à vous poser. Donc, comment est venue la passion du vélo pour vous ?
Bonjour, alors moi je m'appelle Catel, donc j'ai commencé le vélo à 5 ans. J'ai suivi mes deux grands frères qui faisaient déjà du vélo avant moi et du coup au départ c'était juste pour suivre mes grands frères. Et puis ça m'a beaucoup plu et c'est devenu une passion très très vite. D'abord en école de vélo, puis dans le monde des plus grands. Donc du coup depuis toujours c'est une grande passion.
Bonjour, je m'appelle Gerwan. Être une femme et être cycliste pro, est-ce difficile ?
Alors déjà, d'être handicapée en étant cycliste, c'est pas facile. Mais d'être une femme handicapée, je crois que je cumule un petit peu les tares. Donc c'est vraiment pas facile d'être une fille dans le vélo parce qu'il y a d'abord déjà beaucoup plus de garçons. Et on voit pas beaucoup de filles handicapées sur le vélo. Donc forcément, suivre les valides tous les week-ends, c'est pas facile. Donc du coup, ça rajoute des freins et ça rajoute des freins à la pratique quand on recommence à faire du vélo. Donc déjà quand on est une fille, c'est dur de suivre un groupe de garçons. Mais alors quand on est une fille en plus avec un bout de jambe en moins, c'est encore plus compliqué.
Bonjour, je m'appelle Brenda et j'aimerais savoir quels sont vos modèles du cyclisme féminin.
Alors des modèles, je pense que je vais parler d'abord d'Audrey Cordon parce que c'est une Bretonne. Et que je la connais bien, donc c'est un modèle parce que elle est quand même très forte, elle a participé plusieurs fois aux Jeux Olympiques, donc c'est vraiment quelqu'un, et puis c'est quelqu'un de très gentil, donc après dans le secteur il y a aussi Aude Bianic et après j'aime aussi Pauline Ferrand-Prévot, je pense comme toutes les filles qui font du vélo en fait.
Bonjour, moi je m'appelle Maëlle et j'aimerais savoir du coup, vous êtes membre de l'équipe Cofidis, est-ce que vous entraînez avec l'équipe garçon ?
Alors oui, on a la chance de participer à deux stages dans l'année où on est avec les coureurs professionnels. Donc il faut savoir qu'on n'est pas que le petit truc rajouté, on est vraiment intégré à l'équipe Cofidis. On participe aussi à des courses en parallèle avec l'équipe professionnelle. C'est le cas sur le Tour de l'Ain ou là sur le Tour du Poitou-Charentes où on a un chrono aussi. Donc on est 5 en e-sport, enfin 6 cette année. On est 6 en e-sport dans l'équipe Cofidis, mais réellement intégré à l'équipe professionnelle et on fait intégralement partie de l'équipe en fait.
Bonjour, je m'appelle Ilona. Pouvez-vous nous raconter votre accident ? C'est parti de quelque chose d'anodin ?
Mon accident, il est arrivé à l'âge de 20 ans. Donc j'ai fait une entorse en chutant de vélo. Donc j'ai juste posé mon pied par terre. Malheureusement, je suis tombée. Je suis tombée de mon poids sur mon pied. Donc au départ, juste une entorse, on va dire banale. Une entorse comme tout le monde peut en faire et qui pour moi, n'aurait pas trop de conséquences. Parce que tout le monde s'est déjà tordu la cheville sans avoir de conséquences derrière, sauf que chez moi, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Il m'a fallu batailler très, très dur pour pouvoir remonter la pente et pouvoir surmonter la douleur. J'ai vécu 5 ans de douleur, 5 ans de fauteuil roulant, donc ça a été très, très compliqué. C'est une période de ma vie que j'oublierai pas parce que ça reste là. Maintenant, c'est derrière moi et je veux l'oublier. J'ai mis 2 ans à obtenir une amputation. Donc au bout de 3 ans que j'étais malade, j'ai demandé à être amputée parce que je ne voulais pas continuer à vivre comme ça. Tout simplement parce que vivre entre hôpital et maison sous antidouleur et puis à rien pouvoir manger, à pas pouvoir dormir, c'est quand même très compliqué. Juste pour un pied, c'est quand même quelque chose de compliqué. Mais derrière ça, j'ai réussi à obtenir cette amputation et ça a été pour moi vraiment une libération et un grand bonheur finalement de pouvoir refaire tout ce que je pouvais faire avant, de pouvoir remarcher, de pouvoir refaire du vélo. C'était quelque chose d'hyper important pour moi et ça représente beaucoup aujourd'hui. Et je pense que ça restera à jamais ma plus grande victoire d'avoir su rebondir à cette maladie et d'avoir su remonter sur un vélo, d'avoir su remarcher, recourir. C'était quelque chose d'hyper important pour moi.
Bonjour, je m'appelle Anaïe. Comment avez-vous réagi après la perte de votre jambe ?
Pour moi, ça a plus été un bonheur qu'autre chose parce que j'avais tellement hâte que ce pied disparaisse. J'avais tellement de douleurs, tellement de... Et puis, quand on est jeune, quand on a entre 20 et 25 ans, on a envie de faire plein de choses, de vivre à fond. Sauf que moi, je ne pouvais plus vivre. Donc, je pouvais simplement survivre. Et puis, c'est pas drôle de vivre comme ça. Donc, le jour où j'ai été amputée, j'ai dit, bah, maintenant, je veux plus qu'on me prive de rien et que mon corps me prive de rien. Donc, du coup, moi, ça a été une libération. Et pas... Après, c'est sûr, ça fait un choc au départ de voir sa jambe avec le petit bout qui manque. Mais après tout, un pied, c'est pas si beau que ça. Donc voilà, il me manque juste le truc pas beau au bout de la jambe.
Combien de temps vous a-t-il fallu pour retourner à la compétition ?
Alors déjà, pour remonter sur le vélo, il m'a fallu un petit temps, parce que forcément, 50 fauteuils, ça laisse des traces musculairement. Et on remonte pas comme ça sur un vélo, ou même on se remet pas debout tout de suite. Moi, chez moi, j'ai pu remarcher très rapidement. Derrière ça, j'ai pu refaire du vélo 5 semaines après l'amputation, donc c'était quand même très court. Mais au départ, c'était sans prothèse, donc forcément, sans prothèse, c'est un peu compliqué de reprendre la compétition. Et moi, au départ, mon but premier, il n'était pas forcément de reprendre la compétition, mais tout simplement de réussir à suivre les jeunes, parce que ça me faisait un petit peu suer quand j'allais à l'entraînement des minimes et que je ne pouvais pas les suivre. Enfin, moralement, c'est quand même compliqué. Et déjà, mon but premier, c'était celui-là. Après, la compétition, c'est venu à peu près un an après, parce que j'ai vu les Jeux paralympiques à la télé, les Jeux paralympiques de Londres, et ça m'a fait rêver. Après, je voulais pas y aller, hein, c'était pas pour y aller, mais j'ai vu que finalement, il y avait des gens dans le même état que le mien qui pouvaient aller vite sur un vélo et qui pouvaient faire aussi bien que les valides. Donc moi, ça a été après Londres que j'ai vraiment repris la compétition et où voilà, ça a été le déclic. Et très vite, ça s'est bien passé et j'ai pu progresser pour faire de la compétition.
Une prothèse coûte très cher et êtes-vous accompagnée financièrement pour la partie équipement ?
Alors je suis accompagnée donc par Cofidis pour tout ce qui est matériel vélo. J'ai un autre partenaire qui me suit depuis cette année qui est l'AGEAS France. Donc c'est une mutuelle qui m'aide tout au long de la saison et qui me fournit une voiture et qui m'aide financièrement. Et pour les prothèses, j'ai Harmonie Médicale qui me fabrique mes prothèses et qui me paye mes prothèses. Donc du coup, c'est un gros point en moins parce qu'une prothèse de sport, c'est pas remboursé par la Sécurité sociale parce que c'est du complément. On n'a pas besoin de ça pour vivre. Donc forcément, c'est ce qu'on... Enfin, on en a besoin, mais c'est pas une obligation. Donc c'est pas remboursé. Et une prothèse, par exemple, pour courir, ça va coûter 8000 euros environ. Une prothèse pour faire du vélo, ça va être entre 4 et 5 000. Donc forcément, c'est du matériel qui coûte cher. Maintenant, j'ai la chance d'avoir une prothésiste qui me suit tout au long de l'année et qui m'aide tout au long de la saison.
Quel est votre état d'esprit par rapport au handisport ? Trouvez-vous qu'on n'en parle pas assez et avez-vous envie de vous battre pour plus de reconnaissance ?
Alors c'est sûr que le handisport, on en parle une fois tous les 4 ans, enfin tous les 2 ans parce qu'il y a aussi les jeux paralympiques d'hiver. Mais voilà, on parle de nous qu'aux jeux. Même si ça progresse au fil des années, moi c'est vrai que j'ai vu la différence entre l'avant Rio et l'après Rio. L'avant Rio, on va dire que on me connaissait pas, même au niveau de la région, du département pour les aides financières qu'on attribue aux sportifs. En gros, personne ne savait que j'existais et du coup ça a été voilà la découverte. Mais depuis Rio, il y a un peu plus de médiatisation. France Télévisions fait des gros efforts. Il y a des reportages bon, qui passent à des heures, certes, pas où tout le monde regarde la télé, mais à la mi-temps du rugby, il y a des petits reportages de temps en temps. Donc on voit de plus en plus les handis à la télé, c'est très bien. Ça ouvre aussi la société au handicap, parce que forcément, il y a de ça quelques années, même quand je passais dans les écoles, faire de la sensibilisation, les jeunes, ils connaissaient rien au handicap. Au jour d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Les jeunes, ils connaissent un petit peu le handicap, ils savent de quoi je parle. Et c'est bien parce que ça montre que les mentalités évoluent.
Pour vous, que représente la compétition olympique ?
Alors la compétition, que ce soit olympique ou paralympique, je pense que c'est l'épreuve la plus importante pour un sportif. Je pense que participer aux Jeux, toute personne qui fait du sport en rêve, enfin qui fait du sport vraiment de compétition, il rêve d'aller aux Jeux. Et moi, quand j'ai vécu Rio, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Quand on rentre à la cérémonie d'ouverture, quand on rentre dans cette arène, c'est juste une grosse bouffée d'énergie. Et je pense que voilà, c'est un rêve pour tout sportif.
Qu'avez-vous retenu de votre première participation aux Jeux de Rio en 2016 ?
Beaucoup de stress, Je pense que émotionnellement, j'ai vécu là-bas des choses que je m'attendais pas à vivre. J'ai été très très stressée et j'ai vécu des moments que j'avais encore jamais vécu dans le sport. Quand on est sur le point de vomir au départ du contre-la-montre, c'est particulier et je pensais pas le vivre un jour parce que pour moi, je pouvais pas être plus stressée un jour que la veille d'une amputation. Mais si, j'ai découvert au jeu qu'on pouvait être aussi stressée que la veille d'une amputation. Donc particulier. Maintenant, des grands moments de plaisir aussi parce que c'est vivre une compétition énorme dans des conditions extraordinaires parce que pour nous, en e-sport, on vit pas ça autrement. Même les championnats du monde ou les coupes du monde, on n'a pas toute cette médiatisation. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Puis on est aussi dans une structure avec... on est dans la même structure que pour les Jeux Olympiques. Donc quand on est dans ce village paralympique avec tous ces athlètes, on découvre des personnes qu'on ne connaît pas. Moi, j'étais en chambre avec deux filles du paracanoé. Et c'est vrai que j'ai rencontré des amis pour du coup. Et voilà, on rencontre d'autres personnes. Et c'est vraiment une épreuve à vivre au top.
À quelle compétition allez-vous participer et comment vous y préparez-vous aujourd'hui ?
Alors là, je viens de finir, pas tout à fait, mais je viens presque de finir ma saison piste. Je viens d'aller au Canada, je suis rentrée il y a une semaine du Canada, donc c'était au championnat du monde piste. Maintenant, la piste pour moi n'était pas forcément un objectif parce que j'ai pas le gabarit de la piste hard d'abord, j'ai plus un gabarit de routière. Moi, je me prépare surtout pour la route, pour que ce soit la course route ou le contre-la-montre. Donc là, il me reste juste à finir la saison piste la semaine prochaine avec le championnat de France. Et derrière ça, je vais entamer la saison sur route. Et là, je vais me préparer pour les Coupes d'Europe, Coupes du Monde et derrière championnat du Monde pour obtenir ma sélection pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. Parce que la sélection, malheureusement, ne paraîtra qu'au mois de juin après les championnats du Monde.
Quels sont vos objectifs aux Jeux de Tokyo ?
Alors les objectifs, si j'y vais, ce sera... de faire la meilleure perf possible sur le contre-la-montre. Je ne pense pas participer à la piste parce que je n'ai pas le niveau sur la piste. Je ne fais pas des temps suffisamment intéressants pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Donc vraiment, l'objectif, il sera sur le contre-la-montre parce qu'il n'y a que ma catégorie dans ce classement-là. Si je peux atteindre un top 4, voire un top 3, ce serait extraordinaire.
Vous participez aux épreuves C4, qu'est-ce que c'est ?
Alors en fait, en handisport, on a 5 catégories. Enfin, il y a plus que ça même. Il y a les catégories solo, donc C. Moi, c'est WC4, Women Cycling 4. Donc cycling, c'est tout ce qui est catégorie solo. Donc ceux qui sont sur des vélos normaux. Plus le chiffre est petit, plus on est handicapé. La catégorie C5, c'est atteinte souvent membre supérieur ou très faible atteinte membre inférieur. C4, c'est comme moi, amputé tibial. Ou ça peut être les neuros aussi, ceux qui ont eu des traumatismes crâniens et qui ont des troubles de l'équilibre. Après, il y a la catégorie C3, c'est encore un peu plus handicapé. C2, encore plus handicapé. Et C1, en général, c'est atteinte des 4 membres. Donc ça peut être quadri-amputé, donc avec prothèse. Ou alors, ça peut être amputé très haut, que ce soit la jambe, donc sans prothèse, et amputé très haut au niveau du bras. Donc c'est du handicap très lourd. Et après, on a aussi 5 catégories de handbike, qui sont les H de H1 à H5. Donc c'est pareil, plus le handicap est grand, plus le chiffre est petit. Et il y a 2 catégories de tricycles, donc qui sont les T. Et après, il y a une catégorie tandem, les B.
Et après Tokyo, quel est l'objectif Paris 2024 ?
Alors oui, Paris 2024, c'est, je pense que pour tout sportif qui est encore en activité, ceux qui pensaient s'arrêter à Tokyo, finalement, il y a Paris derrière, donc voilà, c'est important. Je pense que là, il pourrait y avoir toute ma famille. Il pourrait y avoir même mon club. C'est particulier d'être à la maison. Le public sera là. Puis c'est arrivé sur les Champs-Élysées. C'est quand même... on ne fait pas le Tour de France, mais une arrivée sur les Champs-Élysées, je pense que pour un cycliste, c'est super important. Et oui, Paris 2024, je veux absolument les vivre. Plus que Tokyo encore.
On ne voit pas beaucoup d'équipements d'e-sport professionnels. Qu'en pensez-vous ?
C'est vrai qu'il y a très très peu d'équipes professionnelles qui intègrent des handisports. Il y a une équipe qui intègre un team handi, c'est l'équipe Cofidis. Et derrière ça, il n'y a personne. Donc il y a un individuel qui est chez Vital Concept, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres équipes professionnelles qui intègrent des handis. Après, il y a à l'étranger l'équipe Movistar qui intègre quelques handis. Mais il y en a très très peu et c'est dommage parce que quelque part... enfin, l'accompagnement qu'on peut avoir avec Cofidis nous permet d'évoluer énormément et nous permet d'avoir un staff autour de nous qui nous aide à progresser et à être au top. Donc voilà, si plus d'équipes pouvaient prendre exemple sur Cofidis, ce serait top.
Si vous n'auriez pas été recruté chez Cofidis, est-ce que vous auriez créé une équipe professionnelle handisport ?
C'est compliqué de créer une équipe parce qu'il faut le staff, il faut les financements. Or, on est sur un sport mécanique. Tu fais du vélo, donc tu sais que le vélo, ça coûte cher. Malheureusement, payer un vélo et devoir avoir les financements pour une équipe, c'est quand même très compliqué. D'autant plus que là, on va être sur une équipe qui n'aura pas forcément de médiatisation. Si tu es sur une équipe qui va participer au Tour de France, qui va participer à des grosses courses à étapes, il y aura de la visibilité. Quelle visibilité aujourd'hui pour le handisport ? Il n'y en a pratiquement pas. Il y aura les Jeux paralympiques, mais où on ne peut pas mettre nos sponsors, parce qu'aux Jeux, on ne peut pas faire paraître nos sponsors. Et après, il y a juste les championnats du monde, éventuellement, et encore, on est en équipe de France. Donc sur les championnats du monde, on ne peut pas non plus parler de notre team. On peut uniquement sur les Coupes du monde ou sur les Coupes d'Europe. Donc il y a très très peu de visibilité.
Merci.
Merci à vous.
Merci à tous de nous avoir fait découvrir Catel Alençon. On vous tient au courant de son actualité sur le site de la radio, radioévasion.net. Je vous propose, avant de finir notre émission, en route vers Dirinon, avec les jeunes du foyer de Pont-de-Bulle-Équimère, qu'on fasse une petite pause. On reviendra pour parler handball et basket, mais en attendant, on reste dans le thème. On s'écoute du rock'n'roll, roulez jeunesse sur Radio Évasion.
Les pauvres sont à la rue, les musiciens dans le métro, les poètes ont disparu. El Momo fait le beau dans les cités dortoirs. On compte les cafards, la jeunesse s'ennuie, la jeunesse s'enfuit. Alors roulez, roulez. Olé, olé, jeunesse, roulé, roulé, olé, jeunesse, roulé, roulé. Les malins grillent le train-train quotidien, les blaireaux font leur boulot, leur métro, leur télé et leur dodo. Sont dans leur niche et leurs chiens mangent à leur faim. Les poulets font les canards quand ils sortent leurs pétards. Alors, olé, 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 jeunesse. Cherche le bon sens comme Nicolas Copernic. Et quand j'ai fini mon tour, c'est l'heure du retour. Alors je passe au suivant. Alors je passe au suivant.
Merci d'avoir choisi Radio Évasion. Vous êtes au cœur de notre émission En route vers Dirinon, une émission sur l'actualité sportive finistérienne. Cette émission est réalisée par les jeunes du foyer de Pont-de-Bulle-Équimère, Ilona, Raphaël, Gurvan, Anaë, Brenda, Laurine et Kemo, qui sont toujours à mes côtés. Ça va tout le monde ?
Oui.
Comme promis, on parle handball avec Anaë et Brenda. Vous nous présentez le club local de Pont-de-Buis, c'est bien ça ?
Effectivement, Corentin, on va parler du club de handball de Pont-de-Buis. J'ai quelques questions pour toi, Anaë. Combien y a-t-il de joueurs dans le club de hand de Pont-de-Buis ?
Il y a à peu près 125 joueurs.
Combien y a-t-il de dirigeants et qui sont-ils ?
Il y a beaucoup de dirigeants, plus de 15 membres au conseil d'administration, 6 entraîneurs sont diplômés, le président du club est Nicolas Rioux, le secrétaire général est Anthony Seznec et la trésorière est Laurence Descendier.
Combien il y a d'équipes ?
Il y a 9 équipes.
Dans quel championnat jouent les seniors gars ?
Les seniors gars équipe 1 jouent en première division territoriale dans le pool 2.
Comment se déroule l'initiation à l'arbitrage ?
L'initiation à l'arbitrage se fait dès l'école de hand, se poursuit à tous les niveaux pour ceux et celles qui le souhaitent. Le club a pour projet de mettre en place une école d'arbitrage.
Quels sont les partenariats du club ?
Il y a 45 partenariats avec le club, comme par exemple Casino, Cocaine Coiffure, All New Conduite et le Starlight.
Merci Anaë et Brenda. Et l'actualité du hand dans le Finistère, c'était l'affiche Brest-Giors en Ligue des Champions. On découvre un résumé de ce match avec Laurine qui était présente à l'Arena de Brest.
Le match Brest-Giors s'est déroulé le 23 février 2020. Brest a perdu 28-29 contre la meilleure équipe du monde. Pourtant, elle menait presque tout le match. Khalid Yatou Niakate, Amandine Tissier et Martha Manguet étaient blessées et ne pouvaient pas jouer le match. Côté retour, on peut noter la présence de Cléopâtre Darleux. C'est la première défaite du BBH en EHF Champions League cette saison et la première de toutes les compétitions confondues cette saison. Je trouvais ce match très stressant car les joueuses de Brest menaient presque tout le match mais vers la fin elles se faisaient rattraper. À l'aréna il y avait beaucoup d'ambiance et c'était très sympa, il y avait aussi du suspense car le score était très serré, c'était un très beau match.
Tu as fait quelque chose de particulier sur ce match ?
Les joueurs du club de hand de Pont-de-Buis ont pu porter les drapeaux sur le terrain et tenir la main aux joueuses avant le match.
Après le handball, on s'intéresse au basket avec un autre club du département qui marche bien. C'est le Landerneau Bretagne Basket. La section féminine réalise une très belle saison. On fait le point avec Kemo.
Oui, le Landerneau Bretagne Basket, aussi surnommé les Filles de Braise, est un club de basketball féminin fondé en 2011. Il évolue en ligue féminin suite à son accession en 2018. Leur salle, nommée la Cimenterie, fut inaugurée en septembre 2016 et peut accueillir théoriquement 1500 personnes. Son entraîneur se nomme Stéphane Leite et son président Erwan Krogenek. Ils sont quatrièmes du premier échelon professionnel de basket féminin en France derrière Montpellier, Bourges et Lyon. En Coupe de France ce samedi, ils disputeront un match contre Lyon. Aizin Kalou est la joueuse la plus complète du LBB avec 15 points de moyenne. Elle est américo-nigériane et mesure 1m73.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Merci également aux jeunes du foyer de Pont-de-Buis Léquimère, Ilona, Raphaël, Gurvan, Anaë, Brenda, Laurine et Kemo, d'avoir été avec nous. Je voudrais quand même ajouter que Didier Deschamps, qui est quand même le sélectionneur et l'entraîneur de l'équipe de France depuis 2012, a fait une belle dédicace pour le tournoi de football de Dirinon. Il partage son attachement au Finistère avant d'adresser une longue lettre d'encouragement aux organisateurs. Sur Radio Évasion, on prépare ensemble les jeunes à la couverture du tournoi international de Dirinon les 30 et 31 mai prochains.